Bonjour, je m'appelle Lionel Sautet. Je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de L'Avenir est à la campagne, le podcast. J'écoute beaucoup de podcasts audio depuis des années. Le son, c'est pour moi comme un livre, ça ouvre l'imaginaire. J'ai donc décidé de me lancer dans l'aventure du podcast à travers le projet L'Avenir est à la campagne. Mais autant je sais d'où je pars, autant je ne sais pas du tout où me mènera ce projet, ni quel en sera le chemin. Je vous embarque avec moi dans ce voyage sonore à la rencontre d'une multitude de gens qui ont tous un lien avec la campagne, son passé, son présent ou son avenir. Et parallèlement, je vous emmène dans une enquête sur les traces de mes arrière-grands-parents, Jean et Louise, qui vivaient en Dordogne et dont une photo a été le début pour moi de 1000 interrogations sur les évolutions du monde rural. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Gérard, agriculteur et artiste. Mais tout de suite, je vous présente Nicole, ma tante, à qui je posais des questions sur Jean et Louise.
Non mais Jean, donc Jean et Louise, tu dis donc photo des années, fin des années 30, donc avant la guerre. Qu'est-ce que faisait ce Charles-là, un des fils de Jean et Louise? Il faisait quoi, le frère de papy?
Charles travaillait à la SNCF. Oh, d'accord. C'était le fonctionnaire, c'est celui qui avait pu partir et l'autre, eh ben, c'est souvent dans les familles à l'époque, il y en avait un qui était placé, qui réussissait, et l'autre, il fallait qu'il reste près des parents pour...
Pour continuer.
Voilà.
Et donc Jean et Louise, c'était quoi leur métier? Ils vivaient de la terre? Ils avaient d'autres activités?
Jean, il était, de mon enfance, il était cantonnier.
Ah, mais c'est ça, papa m'en avait parlé. C'est ça, une petite massette sur le bord de route, pim, poum, pam, ils cassaient les cailloux. Et du coup, ils cultivaient la terre, ces gens-là?
Un petit peu, oui. Pour
eux, quoi.
Tout le monde avait son lopin de terre pour subvenir.
Ouais, c'est ça, pour avoir une part d'autonomie, quoi. Et elle avait une activité particulière ou elle était au foyer, elle s'occupait
Non, je ne crois pas, elle était au foyer. Ils auraient été propriétaires. Il y a eu un problème de dette, mais alors il faudrait que tu te replonges dedans pour comprendre. Ils ont été obligés de se séparer, et là où ils sont en photo, ils étaient locataires. Je me souviens, dans cette maison-là, il y avait une grosse meule, il n'y avait évidemment pas de réfrigérateur, on conservait, et j'ai connu ça chez mes parents, on conservait les œufs dans du sel, dans du gros sel, dans des jarres en terre. Tu avais un rideau qui séparait la pièce, il n'y avait pas de notion de salon et de salle à manger. Hein. Il n'y avait même pas d'étage d'ailleurs. On y est repassé il n'y a pas très longtemps devant cette maison. Parce qu'elle existe toujours, mais elle n'est pas. Elle est abandonnée, mais elle existe.
Ah oui, leur maison à eux, tu dis?
La maison qu'ils habitaient à ce moment-là.
Une vieille bâtisse qui serait encore debout et abandonnée? Évidemment, il faudra que j'aille voir ça. On retrouvera Nicole dans le prochain épisode, mais en attendant, comme promis, je vous invite à me suivre pour partir à la rencontre de Gérard. Agriculteur à la retraite et artiste. Alors aujourd'hui, je suis avec Sylvain, qui est voisin de Gérard, qui est donc agriculteur à Casals, dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Saint-Antonin-Nobleval, et qui est également artiste. Il fait des sculptures d'art brut à partir de vieux outils. Donc on va le rencontrer pour découvrir son univers et son métier. Ça fait longtemps que tu habites là, Sylvain?
5 ans.
Bonjour. Il y a beaucoup d'habitants à Casals?
Écoute, je pense qu'on est dans les 200, avec sur le plateau, sur le cos, au-dessus.
Et c'est surtout des agriculteurs?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Gérard, c'est l'agriculteur du village. Ils sont 2-3 familles. Et le reste, bah, c'est beaucoup de jeunes qui arrivent en ce moment.
Mais c'est ça, là, on vient de croiser déjà... des familles avec des enfants. Alors c'est dimanche, mais...
Ah, il y a tous les âges ici. Des enfants, des vieux, des moins vieux.
Ah, et alors là, on arrive chez Gérard. Je vois des vaches.
On arrive dans la ferme, qui est quand même, comme tu peux le voir, dans le village.
Et alors là, on arrive. Alors devant nous, on a effectivement une vingtaine de vaches. À gauche, on a du matériel, hein, ce qu'on peut appeler modestement du matériel, avec... une voiture, une carcasse de voiture, des vieux outils agricoles, des charrues, des charrettes, des tracteurs, un silo. Et puis là, on a devant nous deux personnes.
Bonjour.
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 Bonjour Gérard.
Ça va?
Vous êtes Gérard? C'est vous?
C'est moi.
Oh, c'est mon ami Lionel.
D'accord, ouais, comme tu m'avais dit.
Ouais.
Enchanté.
Eh bien,
merci de me recevoir.
Avec plaisir. Chauffez-vous.
Ah, bah oui, là vous êtes en pleine création en plus.
Une araignée. En plein. Ah, on essaye de faire une araignée pour...
Ah, mais tu les as récupérées chez Jean-Marc, les...
Ça, eh ben oui, je vois.
Ah, ça y est, ouais.
C'est rigolo parce que j'en ai plein chez moi aussi. Enfin, j'en ai plein, j'en ai une dizaine de...
C'est des dents de vieux râteaux à vaches, ça. Et bon, comme ils partent à la ferraille, je récupère...
C'est pour récupérer le foin, c'est ça?
Oui, c'est ça récupérer le foin, tu sais. Ils appelaient ça un râteau, et t'avais l'attelage devant, un cheval ou des vaches, et puis tu montais sur le siège, et tous les 10 mètres, hop, tu levais le râteau, et ça ça faisait un tas de foin qui était plus facile à récolter.
Oui, parce que c'est des dents qui sont assez souples.
Et maintenant, tout part à la ferraille, alors on a du mal à récupérer aussi. Quand on en voit encore un par là, on va... Maintenant, dans les déchetteries, tu ne peux plus t'approcher. Bon.
Et oui, c'est interdit.
Autrefois, c'était dans une vieille carrière. On a connu ça. Hop, tu y allais là, le lendemain, tu récupérais ce qu'ils avaient jeté le dimanche. Quoi.
Bon, alors, Gérard, cette araignée. Donc là, on a des dents de râteau à vache. Et au centre, alors, c'est un bout de
pot d'échappement de Renault 5. Voilà, et alors j'attendais, parce que maintenant il faut aller, que j'aille me documenter comment elle a la bouche, l'araignée, parce qu'on voit le gros de l'insecte, ou de, je sais pas si c'est un
donc
insecte.
Donc là, on a les 8 pattes et le corps.
Là, j'ai mis les pattes, ouais, ça commence à ressembler à une araignée, quoi.
Carrément, bien sûr.
Et bon, après, je sais pas, j'ai fait des yeux, mais on va voir, et je sais pas si ça a des mandibules devant.
Ça, c'est bien, ouais.
Il me faut me... Tu vois, je récupère les ciseaux de vendange d'autrefois et soit ça me fait corne rhinocéros, d'insectes, ou des mandibules de crabes, d'araignées, en fait. C'est... Oula, le scolopendre, tu vois, je lui ai...
Ah oui, le scolopendre là, qui est sur la machine à maïs.
Ouais, voilà. Tu vois ?
Ah ouais. Il est beau,
ah ouais.
Il fait son poids, hein.
Il fait son poids, ouais. Pareil, c'est des morceaux de vieilles charrettes qui pourrissent dans les bois, et quand j'ai le bonheur de récupérer...
Avec une boule de pétanque pour la tête.
Voilà, et une fourche que j'ai retournée là pour les antennes.
Comment vous est venue cette idée de faire des...
Il y a 25 ans ou 30 ans. Ça m'est venu déjà parce que... J'ai un cousin à Bruniquel, M. Tabarly, qui s'intéressait, qui est plus âgé que moi, qui s'intéressait à ça, quoi. Au tout début, il n'y avait pas beaucoup de monde, quoi, qui faisait ça.
Mm-hmm.
Donc, j'avais déjà vu ça chez lui, ça me plaisait. Et puis, dans le village, il y a une dame, là, Mme Lannelongue, qui a fait une association, début des années 2000, je ne peux pas dire, elle l'appelait Casalar. Et elle demandait aux habitants, elle ne l'a pas fait, si tu veux, avec des professionnels. Elle l'a fait avec des gens du patelin, et elle leur a demandé s'ils avaient un tableau, une sculpture, n'importe quoi,
d'accord.
Mais que ce soit la personne
ici,
qui l'ait fait. Quoi.
Okay.
C'est à ce moment-là qu'il y avait deux ou trois pièces là, chez mon cousin qui me plaisaient, mais je dis... T'as les outils, j'avais bien sûr reconnu les outils, j'ai dit il y avait les mêmes, tu dois arriver à faire la même chose. Et bon, c'est là que je me suis pris au jeu un peu, parce que ça a plu aux gens, ça te fait l'occasion de discuter, on t'amène des pièces, on te dit mais j'en ai de ça chez moi. Bon, et puis ils ont porté petit à petit, bon, ça s'est développé aussi, et maintenant il y a beaucoup de monde qui font
c'était
ça.
C'était quoi votre première création?
C'était une dame qui tient un petit, comme ça on pourra aller le voir si vous voulez, et on appelait ça les premiers pas, alors c'était fait avec des vieux outils de jardin, une sarclette, ce que nous dans notre langage on appelle un bigos, c'est un truc à dedans qu'ils en arrachaient les patates, enfin,
d'accord.
Des trucs comme ça. Et c'est vrai que présenté comme c'était fait, on dirait bien une grand-mère qui apprend à son petit-fils à marcher, quoi.
Alors parce qu'il y a plusieurs étapes. Il faut avoir l'idée de s'y mettre. Il faut s'y mettre une première fois, mais là, 20 ans plus tard, vous continuez. Et vous en
oui,
combien,
parce que
là,
je me suis pris au jeu.
Vous en avez fait combien
je ne sais pas.
Vous n'avez pas compté?
Dans la salle, on ira la voir, il y en a peut-être plus de 100, quoi.
Mais ouais.
Bon, après, je ne réussis pas tout ce que... Des fois, je me perds dans ce que je veux exprimer. Ou... Tu sais,
Et alors, comment ça se passe
Comment vous arrivez à créer ça là? Comment vous arrivez à vous dire, vous dites quoi par exemple sur ce que vous parlez là, vous dites...
Il y a plusieurs... Ben, si tu veux, ça c'est...
C'est la pièce qui vous donne l'idée ou c'est...
Quelqu'un me porte un plein cajot de trucs comme ça là, tu vois. Ouais. J'ai des trucs soudés. Ouais. Et puis tu te dis, dans un premier temps, tu vois, hein, c'est un bordel partout. Mais tu te dis, alors...
Et ah puis... ouais, mais là, il y a une crèche, là. C'est ça, non?
Eh?
C'est la crèche, là-bas?
Oui.
Ouais, avec l'étoile et tout. Ouais. L'étoile du berger. Magnifique, pardon, je vous ai coupé.
Et puis, un beau jour, tu vois un autre. Bon, je regarde ce que font les autres, il faut pas être idiot non plus. Oh, putain, tu te dis, celui-là, il a fait ça et ça, mais j'en ai un plein cajot, moi. Et hop, tu te mets... voilà, tu démarres là-dessus, les mettant. Et... voilà, je suis parti sur un scolopendre parce que quand on l'a regardé, déjà il y en a d'énormes là, vers Perpignan et tout ça, et en Espagne. Et je me suis dit, bon, le fait de se tourner comme ça, plein de pattes, on doit arriver à faire un truc assez ressemblant. Et voilà comment. Des fois j'ai des outils, ils restent en stock plus d'un an ou plus.
Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites ça?
Ah, mais c'est de créer déjà et puis d'essayer de faire... Bon, je suis dans le très figuratif, hein, quand même.
Ouais,
mais... bon, après, des fois...
C'est aussi poétique, puisque...
Oui, bon, comme là, j'ai essayé une parade nuptiale, tu vois, d'oiseaux, bon, un peu stylisé, mais... C'est quand même... voilà, bon...
C'est magnifique.
C'est deux butoirs à... en patates, oui, des charrues pour buter les patates et des dents de vibroculteurs, là, quand elles se cassent, j'essaye de les récupérer chez les gens, mais c'est pas facile. Et des doigts de faucheuse pour faire le bec.
Vous pensez à quoi quand vous faites ça? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête quand vous faites ça?
Dans ma tête, ça y est, j'essaie que ce soit le plus ressemblant possible. Bon. Tu sais, rien que pour mettre les ailes, t'as 10 façons de les mettre, mais bon, les oiseaux ou tout ça, quand ils sont en parade nuptiale, souvent ils se gonflent, ils prennent des attitudes extraordinaires, quoi, où ils ont le jambon qui gonfle comme ça, les ailes. Et des fois, je me dis, je les mets dans ce sens, je soude un peu, je regarde de loin, ça me plaît pas, bon, je reviens, allez. Et puis à la fin, je suis parti là-dessus, voilà.
Et le travail du fer, vous aviez appris ou c'est, vous avez appris au fer?
Ouais, mesure, mais dans l'agriculture,
il faut savoir un peu tout faire.
Oui, il faut savoir un peu tout faire. Bon.
Vous êtes né ici?
Ah oui, ça.
Vous êtes né à Casal?
Je suis né à Casal, oui.
D'accord.
Oui. Il y a longtemps.
Oui, enfin ça va, vous n'êtes pas...
Mais oui, j'étais à l'école à Casal et j'ai fait la propriété à Casal, voilà.
Et du coup, vous avez repris la ferme des parents ou...
Oui, moi j'avais repris la ferme des parents et maintenant c'est le fiston qui a repris la ferme.
Vous êtes en retraite là?
Ça me l'est. Oui, mais bon.
Oui, jamais vraiment comme.
Le dimanche, c'est ici en principe, c'est mon. Je suis à l'atelier, je bricole, j'essaye. Bon, après la semaine, j'aide un peu aux gosses.
Et alors, votre parcours, vous, d'agriculteur, c'était quoi? Vous avez repris une ferme parce que là,
j'ai repris une toute petite ferme, il y avait 5 ou 6 hectares. Bon, mon père, petit à petit, bon, moi, je me rappelle, donc, quand j'avais 10 ans, tout ça, au milieu des années 60, il y avait 15 fermes à Casal, quoi. Il y avait des attelages, il y avait encore des vaches, des chevaux, tout ça, bon. Moi, j'étais à l'école d'agriculture, et après, je suis revenu dans les années 70, au service militaire, bon. Après, bon, je me suis marié, tout ça, et mon père est arrivé en âge de la retraite, donc après j'ai repris la ferme, bon, on a investi un peu, dans le premier temps, on a un peu modernisé, voilà, et j'ai fait du lait pendant
votre 25 ans. Votre père faisait du lait déjà?
Oui, mais bon, à l'époque, vous savez, on nous dit des normes maintenant, mais je me rappelle, mon père mettait les bidons dans de l'eau pour réfrigérer, il n'y avait pas... Et le laitier, il passait des fois à 10h, des fois à midi, vous aviez le lait. Mais bon, et après, il a fallu acheter des frigos et tout ça. Et voilà, et puis on a évolué un peu, et maintenant, bon.
Et là, maintenant, vous avez donc plus de terrain que votre père?
Ah ben oui, déjà, parce que je me suis marié à une agricultrice qui avait une autre ferme, dont on a...
Des frères aussi?
Non, elle est de peine.
D'accord.
Sur le plateau, là, on est à 4 ou 5 kilomètres.
Vous avez plus de vaches que...
Ah, ben, pardi, maintenant, on est à une quarantaine, alors qu'on a démarré à une quinzaine, quoi.
Et c'est quoi, c'est des Primostein ?
Oui, des quelques Montbéliardes.
D'accord. Et votre père, il n'avait pas des Primostein, j'imagine, si ?
Ben, il avait les races du pays, et
ouais, c'est ça,
bon,
c'est
après, ça. on a sélectionné, on est plus passé côté insémination artificielle et tout ça que des taureaux à la maison. Bon, voilà, on a essayé de suivre un peu... On s'est mis au contrôle laitier quand je me suis installé, bon, pour essayer de progresser, quoi. On était suivi par des techniciens. C'était la mode, l'État. L'État donnait de l'argent aussi pour faire les silos, pour faire ci, pour faire ça. Il fallait en profiter, quoi.
On peut aller les voir, vite fait, ça
les
ne vous embête
pas,
ouais.
Ah ben oui.
Et alors, comment ça a évolué ? Vous diriez quoi, vous ? Je sais pas, par rapport au moment où vous avez commencé, ou par rapport au moment où vous étiez minot.
Mais pour moi, ça s'est compliqué tout le long.
Ça s'est compliqué tout le long.
À la fin, j'étais largué, il faut le dire. Bon.
Parce que quoi ?
Mais parce que j'ai pas suivi tout ce qui était électronique, incapable de réparer. Quand je vois le fiston, ce qu'il fait, ce qu'il répare.
Sur les tracteurs, sur les...
Même là, la distribution des concentrés, elle est gérée par un ordinateur et un collier, là.
Ah oui. Donc, c'est hyper moderne comme ferme quand même.
Oh, c'est pas moderne maintenant.
La distribution de la bouffe par les granulés, c'est pas mal quand même.
Ouais, mais bon, disons qu'une ferme, un jeune, il a envie de ça, quoi. Moi, je comprends. Le fiston, ouais, il y en a une qui est en train de manger là-bas, et voilà, elle porte un collier avec un émetteur. Et
d'accord, chacun le sien. La machine reconnaît la vache.
La machine reconnaît la vache, elle lui donne 100 grammes si elle a droit à 100 grammes,
ah,
un kilo.
Ça. Si elle a déjà bouffé, elle a droit à rien.
Ah oui, oui.
Ah ouais.
Ouais, ouais,
elles sont. C'est pointu quand même. D'accord.
Oh, c'est pointu, c'est pas.
Alors qu'avant. Les mangeurs leur foutaient du foin et elles mangeaient.
Eh ben oui, Moi j'ai vu arriver l'ensilage dans les fermes, j'ai vu arriver tout ça avec des grosses machines. Bon, nous avant, qu'est-ce que tu veux, on faisait notre farine, on faisait du foin. Bon, mais après, le machinisme s'est bien développé, quoi.
Et du coup, là, elle mange que du granulé ou elle mange du foin aussi?
Ah non, tu vois, elle mange du foin, bon, elle mange de l'ensilage aussi.
Ok. Et elles sortent ou pas, non ?
Oui, oui. Ouais. En principe, à 10h, elles vont dans la prairie, là.
D'accord.
Là, aujourd'hui, c'est dimanche, peut-être qu'il a oublié de les sortir, je ne sais rien.
Alors, les noires et blanches, c'est les...
C'est Primostein, ouais. Et là-bas, il y en a une, Montbéliard.
Ah oui, la marron, là, ouais.
Voilà, la marron et blanche.
Salut les filles. Et donc, alors, la traite, deux fois par jour ?
La traite, traite deux fois par jour, le matin à 7h et le soir à 5-6h, quoi.
Alors vous disiez que ça c'est compliqué. Alors ça c'est compliqué par rapport à l'électronique, vous disiez.
Par rapport à tout. Mais je vous dis, moi quand on a fait du lait là, il y avait même pas de frigo. On mettait le lait. Maintenant, si ton lait il est pas refroidi, ça va pas bien. Si ton lait il a pas assez de, c'est dingue le nombre de choses.
Et alors on dit que c'est pour la sécurité des consommateurs.
Ben, il paraît, oui, mais je ne sais pas s'ils étaient plus malades avant
oui,
que maintenant.
C'est ce que je vous demande aussi. Hein.
Écoutez-moi, bon, après, c'est pas plus mal, c'est Romain. Mais bon,
et c'est
voilà.
Plus dur pour le fiston que pour vous.
Il a été à une autre école. Moi, par rapport à ce que j'avais vu avec mes parents, je le trouvais difficile. Bon. Et bon, le fiston, il se débrouille, il a pris ça, Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça, si tu vis avec un ordinateur, tu te débrouilles bien, si tu connais rien, eh bien, ça avance pas, t'es largué. Mais moi, je le reconnais, j'y mets surtout pas le nez. Moi, je préfère soigner avec ma brouette et ma fourche, comme autrefois, et puis lui, il s'occupe de la partie automatique. Quoi.
Des plus modernes.
Oui.
Bon, vous avez encore les parents sur la ferme ou non ?
Ma mère, voilà.
D'accord. Et elle en pense quoi de cette modernité ?
Elle, c'est encore pire. Elle est
née
entre les deux guerres.
Elle
regarde ça de loin. Elle est contente aussi de voir que la ferme...
continue.
Ma mère, elle est arrivée à Casal en 1948, alors juste après la guerre, quoi. Et puis elle a vu tout ça évoluer. Elle a vu le village, voilà, perdre les paysans et puis à la place, voilà,
ça
les fermes.
Ça fait quoi un village qui perd ses paysans ?
Oh, je sais pas ce que ça fait. Il perd son âme un peu, je pense.
C'est-à-dire ?
Moi, mais C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, ouais. Quand je suis rentré au conseil municipal à Casals, ouais. C'était en 1977. Tout le monde ne parlait pas toi parce que le maire le comprenait,
ouais.
Mais le maire ne le parlait pas, quoi. Il parlait français, mais après, c'était courant. Et maintenant, je crois que je suis le seul. On est deux encore pouvoir parler pas toi, et ça me fait beau. Et quand on le pratique plus, c'est pas facile. Mais ça, c'est une évolution qu'on ne peut rien, hein. On a perdu
ouais,
notre...
C'est une identité qui change.
On perd un peu notre âme, hein, dans cette affaire. Mais c'est comme ça, bon, et puis les gens ont envie d'autre chose. Voilà. Si je vous disais tout, ça serait extraordinaire.
Qu'est-ce que vous pouvez pas me dire?
L'évolution, comment elle s'est faite? Autrefois, à l'Aveyron, tout le monde allait à la pêche, braconner. Ouais. Mais maintenant, vous avez tout le temps quelqu'un qui est en train de tremper le cul, vous pouvez rien faire. Non, mais c'est vrai, tu peux pas aller attraper un poisson. Mais autrefois, c'est... Je ne vais pas dire des braconniers, parce que c'était même pas du braconnage. Mais si un soir, ils avaient envie d'aller attraper un poisson, ils savaient à peu près que le lendemain, ils allaient avoir un poisson au bout de la corde, ou enfin, selon ce qu'ils plaçaient. Mais maintenant, vous allez au bord de l'Aveyron, elle est plus à nous. Elle n'est pas à nous, mais... Autrefois, on s'en sentait, on avait son coin. T'appelais l'arbre, t'allais à l'arbre d'un tel, au rocher d'un tel. Maintenant, tu passes pour un couillon si tu dis je vais à la pêche au chêne du.
Oui, mais pourquoi aller à la pêche? Il y a le supermarché maintenant.
Mais bien sûr, oui.
Non?
Si.
C'est pas mieux?
Non, mais moi, j'y laisse aller. Moi, quand on me porte une poêlée de poisson, je la préfère aux poissons qu'à voyager pendant une semaine. Hein. Je ne suis pas contre l'évolution, mais je ne sais pas si ça évolue bien.
Un grand merci à Gérard de Casals, qu'on retrouvera dans le prochain épisode. Un grand merci aussi à Sylvain pour la rencontre et à Rix pour l'habillage musical. Retrouvez ce podcast chez tous les bons diffuseurs. Évidemment, n'hésitez pas à partager et à commenter. Vos impressions et vos remarques nous sont très utiles. L'Avenir est à la campagne, c'est un projet artistique de territoire porté par l'Été de Vahour et soutenu par la DRAC Occitanie, la communauté de communes du Cordet et du Causse, la DA du Tarn, la Talvera, CFM Radio et le Théâtre du Colombier. Vous pouvez suivre L'Avenir est à la campagne sur sa page Facebook et sur le site de la compagnie Les Funambules, lesfunambules.fr. On se retrouve très vite pour la suite.